Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snob.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique tous les vendredis en direct de 13h à 14h sur Radio Canu. Comme souvent dans l'émission, nous accueillons une compagnie lyonnaise qui nous fait découvrir son travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la compagnie Herodium. Ils ont carte blanche et ont choisi de nous lire Terras Verdes, un texte de Fermín Cabal, traduit de l'espagnol par Françoise Tana.
La disparue puis l'amant peine, dite Bergeronette, Amandine Vincent.
La camarade, Sarah Seignobosque.
La doctoresse, Pauline Thiroux.
La fossoyeuse, Brigitte Louis-Grand.
La délatrice, Nolwenn Ledot.
L'avocate espagnole, Marie-Laure Communal.
À Terras Verdes, situé à une centaine de kilomètres de Santiago, se trouve un établissement, propriété de l'armée chilienne, où les militaires blessés venaient en convalescence. À partir du coup d'état du général Pinochet, ce lieu s'est transformé en centre de détention et de torture.
San Esteban. Dès mon plus jeune âge, je les ai entendues, jour après jour. Sans que je le sache, elles résonnaient dans mes oreilles. Je les entendais, mais je ne les écoutais pas. On peut entendre et ne pas écouter. Les cris des condamnés, les lamentations des victimes, les plaintes des opprimés. On les entend continuellement. Ils sont partout. Mais on ne les écoute pas. On ne peut pas les écouter. Si on les écoutait, la vie serait intolérable. Peut-être est-ce pour cette raison que maintenant vous n'écoutez pas ma voix. Peut-être ne pouvez-vous pas l'écouter. Comme moi, je n'écoutais pas les cloches de Saint-Esteban appelant Dieu. Comme Dieu ne pouvait pas, lui non plus, écouter les cloches. Mais je sais que vous m'entendez et il faut que je vous parle et que je vous raconte. Ma sœur rêve de moi. Ma mère prie tous les jours. Elle s'agenouille sur les bancs de San Esteban et elle prie. Elle prie. Elle prie. Et elle demande à Dieu si je suis encore vivante. Et Dieu, il sourit. Il sait où je suis. Il sait ce qui m'est arrivé. Il ne peut pas répondre à ma mère. Et s'il le faisait, elle non plus ne l'entendrait pas. Combien de fois ai-je pensé, ai-je pleuré, ai-je crié? Maman, je suis tout près. Je suis à Terras Verdes. Maman, aide-moi. Je suis à Terras Verdes. À Terras Verdes. Ma sœur rêve de nos rires dans le jardin. Elle rêve de notre vieille de chevaux. Elle rêve de la photo de ma remise de diplôme. Ma mère me disait « Tu égaies ma vie, Bergeronette. » Et elle passait la main sur mon dos, doucement, comme pour s'assurer que j'étais bien là.
Bordel de merde, putain, c'est qui ton contact?
Allez, file-lui une dérouillée.
Où il se cache, ce salaud?
Parle, connasse. Les autres se sont déjà chiés dessus. Ils ont tout balancé.
On joue pas à la martyre. Notre patience a des limites.
Ils m'ont mis une cagoule. Et je ne pouvais presque pas respirer à cause de la chaleur. Ils m'ont jeté à terre. Ils ont arraché mes vêtements. Les boutons de mon chemisier ont sauté. Moi, je serrais ma jupe entre mes cuisses. Et eux, ils me frappaient avec quelque chose de très dur pour que je lâche prise. Après, ils m'ont lié les pieds, m'entraîné, nu. Et ils m'ont suspendu à un gibet, les jambes ouvertes. J'ai senti des doigts qui pénétraient en moi.
Cherche dans la chatte de cette connasse.
Cherche,
ces putes cachent des trucs.
Cherche. Et il riait. J'ai senti un liquide chaud qui coulait sur ma poitrine, sur mon visage. Et il riait. Après, ils se sont mis à me frapper avec un nerf de bœuf, sur le dos, sur les bras, sur les chevilles, et puis à l'intérieur des cuisses, et puis sur le ventre. Et il riait. Et après, ils m'ont mis un câble électrique dans le vagin, dans l'anus, dans la bouche. Et ils ont envoyé des décharges. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je suis restée là plusieurs jours.
C'était qui ton contact?
Vous les faisiez où, vos réunions?
Le point de liaison, c'était où?
File-nous le nom des membres de la commission politique.
Où se cache le secrétaire général?
Où est-ce que vous imprimez vos tracts?
Comment vous arrive le fric?
Où sont les armes?
Ton compagnon s'est mis à table, salope, maintenant c'est ton tour.
Balance-lui un peu plus de courant dans la chatte, histoire de voir si elle a retenu la leçon.
Ils ont fait passer le courant. Je pourrissais de partout. J'avais du pus dans les yeux et dans le nez. Ma bouche était comme engourdie. Je ne sentais rien, ni dans le vagin, ni dans les membres. Mon corps était couvert de brûlures de cigarettes.
Parle.
Connasse.
Tu vois bien que les autres ont tout balancé.
Parle.
Notre patience a des limites.
Ma sœur rêve de moi. Ma mère prie tous les jours. Maman, je suis à Terrasse Perdès. Aide la personne qui t'apporte ce message.
Où sont les armes, sale pute?
Ma sœur rêve de nourrir dans le jardin. Elle rêve de notre vieille de chevaux. Elle rêve de la photo de ma remise de diplôme. Ma mère me disait « Tu es gai ma vie, bergeronnette. » Et elle me donnait quelques tapes dans le dos en souriant. Tout va s'arranger. La doctoresse qui a examiné ma jambe dit que tout va s'arranger. Que ma jambe s'est infectée, mais qu'il n'y a pas de gangrène. Qu'ils vont me relâcher et qu'on pourra me la soigner. Ils savent que je ne sais rien. Tout va s'arranger.
On l'appelait Bergeronnette, parce qu'elle marchait comme cet oiseau. Vous savez, en sautillant, en se déplaçant à toute hâte. Au début, elle ne m'avait pas plu. J'avais tout de suite vu qu'elle appartenait à une famille riche. Peut-être pas très riche, mais il est certain qu'elle avait manqué de rien. Elle était tombée amoureuse d'un garçon qui appartenait au mouvement de la gauche révolutionnaire. Un militant. Miguel, il s'appelait. Je m'en souviens parfaitement parce qu'elle lui écrivait des poèmes tous les jours. Et comme elle les oubliait, parce qu'on n'avait ni papier, ni crayon, ni moyen d'en avoir, les poèmes variaient lentement. C'était jamais les mêmes. Mais ce qui revenait toujours, c'était ce prénom. Miguel. 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 C'est presque mieux comme ça, disait-elle. La poésie, quand on la fixe sur du papier, elle perd quelque chose. Elle perd sa spontanéité. Et moi, je me moquais. Mais Bergeronnette, quelle spontanéité peut avoir un sonnet ? C'est ainsi qu'on tuait le temps, attendant qu'il vienne nous chercher pour nous tuer. Un jour, ils l'ont ramené en sang, avec un pied brisé. Il lui avait tiré une balle dans la cheville. Elle a dit que ça avait été par erreur, qu'il ne fallait accuser personne, qu'elle avait entendu tout près le coup de feu partir, que brusquement elle avait ressenti une brûlure et qu'aussitôt il s'était occupé d'elle. Une doctoresse était venue, qui lui avait bandé le pied, qui lui avait même donné un calmant, et il s'était excusé. Il lui avait promis qu'elle sortirait bientôt. Je sais pas si elle y croyait, mais on s'accroche toujours à l'espoir. Dans le mur de la cour, il y avait une crevasse, et par le trou, elle regardait la lune pendant des heures et des heures. Elle disait qu'elle voyait les yeux de son père qui lui souriait. Elle se rappelait la chaleur de ses genoux quand, enfant, il lui racontait un conte pour qu'elle s'endorme. Il lui lisait toujours le petit pousset. Et elle se mettait à pleurer quand les oiseaux mangeaient les miettes de pain et que les enfants ne retrouvaient pas leur chemin pour retourner à la maison de leurs parents. C'est l'histoire de notre génération. Nous sommes entrés dans la forêt et nous n'avons jamais retrouvé le chemin du retour. Nos parents ne nous ont pas appris. Ils ne pensaient qu'à se débarrasser de nous. Je lui disais tout ça pour plaisanter, mais elle, elle le prenait au sérieux. Et ses yeux se remplissaient de larmes. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le jour où ils l'ont emmené. Il s'est passé une drôle de chose. Enfin, drôle, ce n'est pas le mot qui convient. Elle avait beaucoup de fièvre. Sa blessure s'était infectée et elle souffrait horriblement. Cet après-midi-là, on lui avait dit qu'elle retournerait chez elle, parmi les siens. Elle a retiré son manteau. Un manteau très voyant, une fourrure de qualité. Un cadeau de ma mère, disait-elle, comme pour nous demander pardon à nous toutes. Et elle l'a donné à la gamine en lui disant « Prends-le, Monica. Tu vas en avoir besoin. » Puis la porte s'est ouverte brusquement. Plusieurs hommes sont entrés. Ils ont montré la jeune fille qui, toute contente, finissait de mettre le manteau et ils l'ont traînée derrière eux. Ils nous ont pas laissé le temps de leur expliquer. Au bout de quelques minutes, ils ont ramené la gamine en pleurs et ils ont emmené Bergeronnette. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Pas une trace, pas un soupir, pas une miette de pain pour retrouver son chemin. Je suis la camarade.
La doctoresse. Une jeune fille brune, de race caucasienne, à la peau très blanche, aux cheveux noirs, longs, raides, de petite taille, assez mince, des hanches étroites, une poitrine peu développée, presque d'adolescente, et une façon de marcher très particulière, comme un oiseau. On l'appelait Bergeronnette. Je me souviens parfaitement d'elle. Et je vais vous dire, monsieur le juge, elle m'a paru être quelqu'un de bien. Une fille très gentille, sérieuse, comme il faut. Malheureusement, il semble qu'elle ait été séduite par l'un de ses camarades de l'université, un marxiste, un individu dangereux, un terroriste. Violée ? Eh bien, votre honneur, vous en savez plus que moi. J'entérine ce jour le rapport que j'ai rédigé en son temps. Blessure par balle à un pied. Cela vous semble peu ? Vous préféreriez peut-être une autre histoire ? Une détenue sauvagement torturée, violée et à qui, en plus, on tire une balle dans le pied ? Pas mal, non ? Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien eu de tout cela. Un simple accident, comme vous pourrez le constater si vous vous donnez la peine de jeter un coup d'œil à la déclaration de la détenue elle-même, qui a reconnu spontanément, motu proprio, regrettable incident non intentionnel. On dit beaucoup de choses, monsieur le juge, et c'est logique. Les militants marxistes sont dressés pour toujours déclarer qu'ils ont été l'objet des pires tortures. Ils racontent des choses incroyables, inhumaines, à vous donner le frisson. Et les femmes, nous sommes les pires, je n'ai pas honte de le reconnaître.
parce que dans ces cas-là, il faut tenir compte de la pathologie de l'hystérie. Avez-vous déjà oublié comment le peuple chilien nous suppliait, nous, les militaires, de sauver le pays? J'ai vécu les 1000 jours de terreur et d'anarchie de Salvador Allende. On ne me l'a pas raconté. Je l'ai vu de mes propres yeux. On faisait la queue pour acheter les produits de base. Il n'y avait même plus de dentifrice. On ne produisait plus. Les ouvriers occupaient les usines et ne travaillaient pas. À la campagne, les gens occupaient les grands domaines agricoles et mangeaient le bétail. On prétendait que nous devions tous être égaux. Tous mal élevés, lâches, profiteurs. L'égalité, quoi. Et si une personne travaillait et réagissait, il fallait coûte que coûte la dénigrer. Oui, votre honneur, toute cette histoire de disparu a été grossie dans le but de nuire au général Pinochet et de démoraliser les forces armées. On raconte des choses invraisemblables. On dit par exemple que des détenus ont été amputés de leurs doigts et de leurs mains, qu'on les a castrés, brûlés avec des chalumeaux, qu'on a saupoudré leurs blessures de soude caustique, qu'on leur a fait manger leurs excréments, qu'on leur a injecté le virus de la rage, des bacilles du choléra, des flagelles de la syphilis et... que sais-je encore? N'importe quelle énormité, n'importe quelle infamie, dans le seul but de salir l'honneur de l'armée. C'est intolérable, monsieur le juge, c'est une honte. Que je me taise? Mais cela signifierait-il que vous croyez tout cela possible? Que l'armée d'un pays civilisé peut se comporter de cette façon? Vous ne voyez pas qu'il s'agit d'un grossier bourrage de crâne pour nous discréditer? Que je m'en tienne aux faits. Mais je ne parle que des faits. Voici le rapport obligatoire. Les faits sont consignés. Un lamentable accident reconnu spontanément par la victime. Victime que, par ailleurs, j'ai soignée scrupuleusement. Nous avons même lié amitié. C'était quelqu'un de bien. Elle n'avait qu'un défaut. Elle était obstinée. Quand elle avait quelque chose dans la tête, il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu de violence. Bien sûr qu'il y en a eu, personne ne peut dire le contraire. Est-ce que quelqu'un s'imagine qu'on puisse aller vers un terroriste avec une tasse de café et des biscuits et lui demander « Excusez-moi, monsieur le terroriste, auriez-vous l'amabilité de me dire qui vous allez tuer, où et quand ?» Monsieur le juge, vous savez bien que cela ne peut se passer ainsi. Vous le savez que trop bien. Votre honneur en aura condamné plus d'un pour ces méthodes, alors qu'on ne vienne pas maintenant me raconter des bobards. En plus, des innocents paient parfois pour les coupables, comme cette jeune fille. Moi, j'ai dit qu'il l'avait tuée. Quand ai-je dit ça? Je me limite, votre honneur, à approuver ce qui figure sur le rapport suspensionné. Et j'ajouterai une chose, votre honneur, si les droits des détenus vous préoccupaient autant, pourquoi ne les avez-vous pas fait savoir avant, au moment où se produisaient les faits? N'aviez-vous pas des yeux pour voir dans quel état vous arrivez les accusés? Ne voyez-vous pas les brûlures, les bleus, les yeux sanglantés? Non, non et non, je vous le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il y a eu des tortures. Les tortures, c'est vous qui en faites mention. Moi, je dis simplement ce que je dis.
La fossoyeuse. Si quelqu'un veut vraiment savoir comment est ce pays, qu'il vienne me voir au travail, je lui montrerai. Je suis gardienne d'une des sections du cimetière principal de Santiago. Oui, gardienne. Autrement dit, je veille à ce qu'on ne dérange pas les morts. Au moment du coup d'État, j'étais affectée au patio 29, le lieu d'inhumation des indigents. Là où on conduisait aussi les cadavres non identifiés. C'est là que j'ai connu mon mari, Aurelio Morales. Avant, on se limitait à préparer les tombes et à enterrer les morts. Mais à partir du coup d'État, ça a été quelque chose de spécial. Parce qu'on devait aller à la morgue, mettre dans les caisses, charger le camion, arriver au cimetière, inhumer, retourner à la morgue. Et c'était comme ça tous les jours. Il y avait beaucoup de corps, tellement qu'on n'y arrivait pas. On avait un camion Ford de couleur plomb et on faisait 2-3 voyages par jour. Il venait généralement par carton de 2. Au début, c'était 1. Mais après, comme les cercueils sont venus à manquer, Il fallait les mettre tête bêche. Après, ils sont venus dans des bâches, dans des toiles à sacs qui se déchiraient, et on aurait dit que les morts voulaient s'échapper. Certains n'étaient même pas des cadavres. C'était comme des masses. Ils arrivaient comme défaits. Les jambes, les bras, désintégrés. Preuve qu'ils étaient restés plusieurs jours en plein air, mangés par les rongeurs ou par le fleuve ou par des trucs comme ça. Il y en avait d'autres, désintégrés aussi, qui étaient coupés. Coupés genre à la mitraillette, comme ça, par une rafale. Ces morts, ils étaient jeunes. Des fois presque des enfants. Je les voyais tout serrés, le regard perdu, comme s'ils avaient voulu regarder quelque chose au loin, au-delà des sommets de la cordillère. Et je pensais, les morts, c'est comme des fœtus qu'on élève dans le ventre de la terre. La jeune fille dont on parle, je m'en souviens bien. Et c'est pour ça que ses parents ont pu la retrouver. Par le visage, il ne l'aurait pas reconnu. Il était écrasé, on lui avait aplati, brûlé, qu'est-ce que j'en sais. Mais quand ses parents m'ont montré sa photo, j'ai reconnu son manteau. Un manteau de fourrure très cher, ça c'est sûr. Elle était très jeune, une gamine, aux cheveux noirs, raides. Elle avait dû être très jolie. Quand le bruit a couru qu'on enterrait là des assassinés, le patio 29 a commencé à se remplir de monde. Ils allaient sur les tombes, ils embrouillaient, ils gênaient, ils posaient des questions. Et nous, on ne pouvait rien dire. Parce qu'ils nous avaient mis une camionnette de la DINA, la police politique, et que si on nous voyait en conversation, ils nous tombaient dessus. Et c'est pas une blague. Maintenant, je vais vous raconter ce qu'ils nous ont fait. Cette femme qui venait tous les jours et qui s'asseyait sur un tas de terre avec une photo et qui pleurait en la montrant à ceux qui passaient, eh bien, à mon mari, elle lui a fait de la peine. Quand il a vu la photo, il m'a dit « C'est la gamine au manteau ». Il n'a pas eu à m'en dire plus. Donc, Aurelio a eu pitié et il a dit « Madame, venez demain matin à 1h, à l'heure où la camionnette de la DINA va déjeuner. Et moi, la jeune fille, je vous la sors de terre. Mais il faut que vous m'apportiez un ordre écrit. » La femme est revenue le lendemain avec les papiers. Une autorisation d'exhumation et de transfert de cadavres délivrée par le ministère de la Santé. Tu parles, mon cul. Les riches pour ces trucs-là, on le sait bien, est-ce qu'ils ont des problèmes ? Aucun. Les enfants de la dame avaient fait venir un corbillard avec des couronnes de fleurs, comme si ça avait été un vrai enterrement. Comme personne ne se décidait à soulever la boîte qui était toute pourrie, Aurelio et moi, on l'a attrapée et on l'a mise dans la voiture. En partant, la femme s'est adressée à mon mari et lui a dit « Qu'est-ce qu'on vous doit ?» Et il a répondu « Le respect, madame. » Celui que vous n'avez pas pour nous. Et il s'est baissé, a attrapé la pioche, m'a fait signe, et on est parti. 2 jours plus tard, on était en train de décharger la Ford quand ceux de la DINA se sont approchés de nous et nous ont jetés, Aurelio et moi, dans la camionnette. Ils nous ont emmenés en rase campagne et ils nous ont fait creuser une fosse de 2 mètres sur 3. J'ai pensé qu'ils allaient nous tuer, tous les deux. On creusait et on creusait. La seule chose qui me donnait des forces, c'était de penser qu'ils n'avaient pas pris mes papiers. J'avais toujours mon portefeuille dans ma poche. Et ces fils de pute tuent pas quelqu'un sans lui avoir retiré son portefeuille. Après, celui qui commandait nous a dit que ça allait. Et il nous a donné l'ordre de nous mettre au bord de la fosse. Par derrière, un salaud a donné un coup de pelle sur les jambes de mon mari. Et Aurelio est tombé à plat ventre dans la fosse. Ils se sont tous mis à jeter du sable sur lui pendant que le chef me tirait les cheveux, me mettait à genoux en me disant « Vous aimez jouer à déterrer, hein, sale pute. Eh bien, on va voir comment tu vas te débrouiller maintenant. » Ils m'ont redonné l'appel. Et je me suis mise à retirer la terre comme une folle. J'ai aussitôt repéré la forme d'Aurelio. Je lui ai sorti la tête, il respirait, il n'avait pas perdu connaissance. Et il s'est lui-même retiré la plus grande partie du sable avec les mains. Après, ceux de la Dina, ils nous ont ramenés au cimetière. Prenez-en note, ils nous ont dit. La prochaine fois que vous déterrerez quelqu'un sans nous prévenir, c'est vous qu'on mettra à sa place. Et il n'y aura personne pour vous déterrer, vous. Je regardais Aurelio, le visage et les cheveux pleins de terre. Et je pensais, ça me suffit. J'ai mon compte. Depuis les entrailles de la terre, j'ai donné naissance à un cadavre.
La délatrice. Oui, c'est moi qui l'ai dénoncée. Si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, elle serait peut-être encore en vie. Ou peut-être pas. Tant d'années ont passé. Celui qu'il recherchait, c'était son fiancé Miguel Menéndez, un dirigeant universitaire, un de mes camarades du mouvement. Un poids qui pèse lourd. D'une certaine façon, c'est moi qui les ai présentés l'un à l'autre. Bergeronette, je l'avais connue à Chilian durant l'été 1970. On avait été toutes les deux volontaires pour participer aux travaux de développement de cette région. Au début, elle ne m'avait pas plu. J'avais tout de suite vu qu'elle appartenait à une famille riche. Peut-être pas très riche, mais on voyait qu'elle n'avait manqué de rien. Et quand elle entrait dans les maisons et qu'elle se trouvait face à la misère, elle ouvrait grand les yeux et restait à regarder, muette. Ensuite, je l'ai prise en affection. Elle savait se faire aimer. Elle était si gentille, si claire, si diaphane. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à la tuer. J'ai cru qu'ils lui feraient cracher très vite le renseignement où se trouvait Miguel et qu'ensuite ils la relâcheraient, mais les choses parfois tournent mal. Les imprévus surgissent. Un idiot qui manipulait un fusil a laissé partir un coup de feu. La blessure s'est compliquée. Ils ont dû la faire admettre à l'hôpital. Je ne dis pas ça pour me disculper. De quoi devrais-je me disculper? Je dis simplement la vérité. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à la tuer. D'autres, oui, mais pas elle. D'autres, je les ai dénoncés en sachant qu'ils les tueraient. Et qu'avant, ils leur feraient des choses horribles. Ces mêmes choses qu'ils m'avaient faites, à moi aussi. Que celui qui veut me juger le fasse, mais je ne suis pas venue ici pour cela. Je n'ai pas à avoir honte. Ils m'ont torturée, et je me suis brisée. J'ai capitulé. C'est tout. Et jusqu'à ma mort, je porterai en moi cette blessure qu'ils m'ont faite. Parce qu'on ne dénonce que ceux qui sont autour de soi, les siens, les gens qu'on a aimés, les hommes qu'on a aimés, les amis, et s'il le faut, la famille. Et eux, ils savent qui ils veulent. Et lorsque vous vous brisez, que vous capitulez, ils savent que plus ils vous infligent de souffrance, plus vous dénoncez. Je dépose devant cette commission par devoir de conscience, parce que j'ai une dette et il me paraît nécessaire de le faire si de cette manière je peux contribuer, de quelque façon que ce soit, à réparer le mal que j'ai pu faire en collaborant avec la Dina. Il m'importe de contribuer à l'éclaircissement de la vérité et au rétablissement de la justice, et ce, dans un contexte de réconciliation. Depuis des années, j'ai expérimenté un processus de rencontre avec le Seigneur, et j'ai vécu profondément mon engagement dans la foi chrétienne. Je veux, dans la mesure du possible, être fidèle aux préceptes de ma conscience. Bergeronette, j'ai appris ce qu'il lui avait fait. alors qu'elle était à Terras Verdes, l'armée de l'air avait capturé son fiancé au cours d'une opération. Comme la jeune fille semblait raisonnable et qu'elle était de bonne famille, ils ont pensé qu'ils pourraient passer un accord et la laisser en liberté. Mais la doctoresse qui l'avait soignée à l'hôpital avait émis un avis négatif. La pauvre bergeronnette lui avait demandé de consigner sur un rapport médical les liaisons occasionnées par les tortures. Face à cette situation, ils ont décidé d'en finir avec elle. Ils l'ont remise à l'armée de l'air pour qu'ils complètent les interrogatoires et quelques jours plus tard, ils les ont jetés dans la mer depuis un hélicoptère, son fiancé et elle.
L'avocate espagnole. Je dispose de peu de temps. Tout d'abord, je vous dirai qu'il n'existe aucun motif juridique à ce procès. Il n'existe pas de base juridique qui puisse mettre en accusation un chef d'État pour des faits supposés qui se seraient déroulés pendant l'exercice de ses fonctions. Je vous dirai, concernant la personnalité de mon client, le général Pinochet, que vous êtes tous dans l'erreur. Il est facile de le dépeindre comme un scélérat qui a plongé son pays dans un bain de sang. Mais ce qui est certain, c'est que mon client, assigné en justice, n'a connu aucune responsabilité dans le coup d'État du 11 septembre. Bien au contraire. 48 heures avant le coup d'État, et ceci est prouvé par de nombreux témoignages, le général Pinochet, qui avait été placé, je vous le rappelle, à la tête de l'armée par Salvador Allende en personne, a essayé d'arrêter l'intervention armée décidée par la junte militaire face à la situation chaotique que vivait le pays. Et ce n'est qu'au dernier moment, et afin d'éviter de plus grands maux en divisant l'armée, qu'il a consenti, contre sa plus profonde volonté, à assumer la direction du coup d'État. Alors, vous appelez ça « retourner sa veste » mais parce que vous êtes un marxiste débile. Moi, j'appelle cela un exercice de responsabilité. Parlons clairement. Que serait-il arrivé si les prétendues victimes du Chili avaient pris le pouvoir le 11 septembre? Car c'est ce qu'elles voulaient réellement, et c'est ce qu'a empêché l'armée. Oui, que serait-il arrivé si les terroristes s'étaient appropriés le pouvoir au Chili? Je vais vous le dire, 3000 personnes n'auraient pas disparu, et elles ne sont pas non plus 3000. Ces chiffres restent à vérifier. Et je vous dirai entre parenthèses que mon cabinet a localisé plus d'un prétendu disparu ayant demandé l'asile politique, et qui vit richement à l'étranger avec une autre femme et d'autres enfants. Bon, pour le dire à l'espagnol, plutôt que disparaître, il est allé acheter du tabac. Mais, bon, toute plaisanterie mise à part, personne ne sait combien aurait disparu, 50 000 peut-être, ou 1 million comme au Cambodge, pourquoi pas tant qu'on y est. Quand l'arbre est tombé, il est facile de courir aux branches. Attaquer un pauvre vieillard, malade et exténué, c'est facile. C'est énorme. Cette compagnie de théâtre qui représente en ce moment un plaidoyer, totalement ridicule et démagogique contre mon client. Cette élucubration s'appelle, je crois, Terras Verdes. Il est certain que, d'un point de vue légal, cela peut être considéré comme un plagiat, car toute la pièce a été pompée sur Internet. L'auteur est une crapule qui n'a même pas pris la peine d'écrire quelque chose d'original. Il s'est limité à copier de petites choses par-ci, par-là, des témoignages dispersés et sans aucune valeur, dans le but d'ébaucher un lamentable pamphlet contre la mémoire de cet illustre soldat, auquel il n'arrive même pas à la cheville. Que de mal ils font, ces petits intellos, en sapant les institutions avec leurs critiques acerbes, leurs regards stérilisateurs. Ce sont d'éternels pessimistes qui rêvent d'un monde absurde qui ne leur appartiendra jamais. Ces soi-disant artistes de gauche présentent systématiquement les grands hommes qui ont défendu la civilisation occidentale comme des tyrans ignominieux, grossiers et ignorants. Allez en croire, Pinochet, Videla, Margaret Thatcher, Hassan II, Felipe González lui-même seraient des voyous sans scrupules, uniquement soucieux de leur profit personnel et capables de crimes les plus abjects comme séquestration, torture, assassinat. La réalité est bien différente. Celui que vous taxez d'assassin, c'est un homme qui réfléchit et qui exige que chacun assume la responsabilité de ses fonctions. Cette responsabilité, l'assumez-vous dans votre profession ? L'assumez-vous vraiment ? Oh, ne me faites pas rire.
L'âme en peine. Ce sont les cloches de San Esteban. Personne ne sait depuis combien de temps elles sonnent. Elles étaient déjà là lorsque je suis venue au monde, et elles continuent à se lamenter pour tant et tant de choses. Aujourd'hui, elles sonnent pour moi. Elles célèbrent une messe d'anniversaire pour mon âme. Parce que ma mère prie pour moi tous les jours. Elle s'agenouille sur les bancs de San Esteban et elle prie, et elle prie, et elle prie. Et aujourd'hui, jour anniversaire de ma disparition, elle priera plus encore. Pauvre maman. Dans une petite urne, elle garde des cendres. Elle croit que ce sont les miennes. Si elle ne pensait pas les avoir retrouvées, elle serait toujours désespérée comme le sont tant de femmes, tant de mères qui cherchent un cadavre. Un cadavre qui s'éloigne de plus en plus chaque jour. J'ai dit tant. Elles ne sont pas tant que cela. Les cicatrices se referment. Tout s'oublie. Seule la présence obscène du tyran attise la rancœur dans les âmes. Mais bientôt, le vieillard quittera ce monde. Et alors, très rapidement, comme arrive la nuit, arrivera l'oubli, le bienheureux oubli. Mais nous devons, Miguel, moi et tant d'autres, continuer d'errer sans cesse dans la vallée, dans le désert, dans les glaces du sud, jusqu'au sommet le plus élevé de la cordillère. Car il faudra toujours que je vous parle et vous raconte. Même si vous n'entendez pas ma voix, même si vous ne pouvez l'écouter, comme moi, autrefois, je n'écoutais pas les cloches de San Esteban qui appelait Dieu, comme Dieu ne peut pas non plus écouter les cloches. Nous ne sommes pas des mendiants. Je ne viens pas ici pour que vous me jetiez votre compassion comme des miettes de pain qu'on offre à un estropié. Parce que je sais que vous n'entendez pas ma voix, ne se taira pas. Mais les cloches sonnent le glas. Et elles sonnent. Elles sonnent. Et elles continueront de sonner pour toutes les tragédies survenues dans le monde jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, elles s'arrêtent. Les hommes, alors, regarderont effrayés autour d'eux et ne trouveront ni oiseaux, ni miettes de pain, ni tombes, ni pêches, ni noix, ni photos, ni lune, ni rire dans le jardin, ni étreinte gelée au fond de la mer. Et on entendra que le fracas insupportable du silence. Thank you.
Voilà, donc nous venons d'entendre Terras Verdes, lu par Sarah Seignobosque, la directrice artistique de la compagnie Hérodium, et puis par les actrices qui se sont présentées au début. Merci d'abord pour cette belle lecture. Et puis, bah, du coup, je vais te demander, Sarah, ce qui t'a donné envie de lire ce texte pour cette carte blanche aujourd'hui.
Alors, c'est un texte qui parle du féminin, je trouve. Je trouve que c'est assez rare d'avoir des textes aussi développés, surtout des monologues de femmes. Là, ça implique d'avoir 6 comédiennes sur le plateau. Voilà, c'est un texte que j'aimerais monter la saison prochaine. Et donc, et qui s'inclut aussi dans un cycle de recherche que je développe autour du féminin en temps de crise. Voilà.
D'accord. Donc, tu vas monter des textes un petit peu de cet ordre-là, ou tu as déjà monté
J'ai pas encore monté ce genre de texte pour l'instant. Pour l'instant, j'ai travaillé plutôt sur des textes autour d'autobiographies. J'ai adapté pour le théâtre des autobiographies. Donc, j'avais monté Eros Machine, qui était un spectacle tiré d'un livre de Jean-Michel Rabeu. Je l'avais monté au Théâtre de l'Élysée en 2009. Et ensuite, j'avais créé un spectacle qui s'appelait « Mais tous les ciels sont beaux » et qui s'était joué l'année dernière au Théâtre des Clochards Célestes pendant le festival Balise Théâtre.
D'accord. Et ça, c'est un peu une des spécificités de la compagnie Hérodium, si j'ai bien compris, de monter des textes qui ne sont pas forcément théâtraux, aux frontières du théâtre.
Oui, voilà. Écrit. Plutôt aux frontières du théâtre. Moi, j'ai fait des études de lettres. J'ai fait une prépa littéraire avant de faire des études de théâtre au Conservatoire de Lyon. Et donc, voilà, j'aime aborder le plateau avec des textes qui viennent plutôt, qui soient des romans ou des écritures qui soient proches du cinéma, ce qui est le cas pour le texte de Fermine Cabal.
D'accord. Oui, c'est un texte, j'allais te demander, c'est un texte qui est un roman, une nouvelle ou...
Alors, c'est un texte qui est édité comme un texte de théâtre, qui est édité au D'accord. Solitaire Intempestif. Voilà.
D'accord.
Et c'est une petite forme que j'aimerais développer pour la saison prochaine, qui pourrait se prêter à du théâtre en appartement, notamment.
D'accord. Et pourquoi alors cette recherche de textes en dehors des textes théâtraux?
Disons que je crois que c'est un moyen d'avoir beaucoup de liberté par rapport à tout le carcan théâtral. C'est ma recherche actuelle, peut-être que ça évoluera ensuite. Dans la compagnie, il y a aussi un créateur son et lumière qui lui vient de la musique et du cinéma, et une scénographe qui a fait les beaux-arts. Voilà, donc c'est les personnes qui travaillent très régulièrement avec la compagnie. Après aussi, on a d'autres équipes, une équipe de comédiens qui changent en fonction des projets et des chargés de diffusion. Et disons que j'aime bien mélanger les univers.
Oui, ça c'est. Moi, j'avais vu donc ce qui s'était joué au Clochard Céleste, Mais tous mes ciels sont beaux. Effectivement, on voit que c'est un peu une spécificité, une recherche en tout cas de votre compagnie, de mêler le texte au son, à une recherche comme ça. Sonore, esthétique, visuelle à la vidéo, c'est quelque chose que tu développes dans toutes tes créations?
Oui, je m'inspire beaucoup de la photographie et de la peinture. Je vais beaucoup puiser là-dedans, en tout cas pour le travail plastique et le travail de l'écriture scénique, on va dire.
D'accord. Et du coup, donc, tu as créé ta compagnie. C'est une jeune compagnie, une vieille compagnie?
Alors, c'est une compagnie qui s'est créée en 2010. Qui n'a pas tout de suite fait des spectacles. J'ai des temps de gestation, de création un peu longs. Souvent, je mets bien un an et demi pour créer un spectacle. Et donc c'est une compagnie qui date de 2010 et qui est située à Lyon, en Rhône-Alpes.
D'accord. Et le départ, l'envie de départ de création de compagnie, ça t'est venu de rencontre ou d'une...
Alors oui, c'est venu de la rencontre entre moi, Vincent Monnery et Caroline Ronceret, donc que j'ai présenté en début d'émission. Moi, je joue de temps en temps avec le théâtre narration, avec Ghislaine Drahi, avec qui j'ai beaucoup d'affinités artistiques. Et je sentais que j'avais, en sortie de conservatoire, que j'avais l'envie de mettre en scène. Et donc, au début, j'ai fait partie d'une compagnie... qui a été une compagnie provisoire avec d'autres élèves du conservatoire, qui s'appelait à l'époque la Compagnie de l'Envol. Et puis au bout d'un an, on s'est rendu compte que peut-être nos envies étaient un tout petit peu différentes, et je me suis dit qu'autant que possible, il fallait créer une compagnie pour essayer d'avoir une ligne artistique claire sur la durée.
Et tu t'es lancée dans l'aventure.
Voilà.
Et pourquoi Hérodium ?
Alors, Hérodium, ça vient... C'est un nom de fleur. Ça me faisait penser à mon premier spectacle, Eros Machine. Et c'est... ça vient de Hérodios, qui veut dire Héron, en grec. Et... en latin, pardon. Et c'est le symbole de la liberté et du rêve. Je trouve que ça colle très bien à mes envies.
Très bien, donc pour rêver, allez voir les spectacles de la compagnie Hérodium qui sont sur Lyon. Est-ce que tu as des projets justement dont tu voudrais nous parler ?
Oui, l'année prochaine, très certainement, il va se créer un spectacle qui s'appelle Sodome ma douce, un texte de Laurent Godet, que je vais créer avec Lucie Donnet, qui est une ancienne élève du Conservatoire de Lyon, qui travaille régulièrement à Grenoble avec Muriel Vernet, et qui est en ce moment professeure intervenante au Conservatoire de Chalon-sur-Saône. Donc très certainement, ce spectacle se créera dans le réseau Scène Découverte. Ensuite, j'ai un autre projet qui se développe autour de lectures hors les murs. Le but, ça serait de faire des lectures in situ à des publics ciblés. C'est un peu tôt encore pour en parler.
D'accord, donc nous ne saurons que ça, c'est ça ?
Voilà.
mystère, à suivre donc.
Après, le texte de Fermine Cabal, si on le lit aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il va y avoir aussi des suites pour la saison prochaine.
D'accord, voilà. Donc à suivre également. Tu as un site internet, quelque chose ? On peut avoir des renseignements sur la compagnie ?
Oui, on peut, en tapant cie.hérodium, on tombe sur le site internet.
D'accord. Et ben, je vous propose juste avant une petite chronique qu'Amandine va nous faire sur des spectacles et une actualité théâtrale de la semaine.
Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour de table, vas-y, Sarah, excuse-moi, vas-y, présenter un petit peu l'équipe.
Absolument.
J'avais choisi de réunir des gens qui étaient très différents, d'univers théâtraux différents. Voilà, donc peut-être qu'on peut faire un petit tour pour se présenter.
Il faut qu'il y en ait une qui choisisse.
Nolwenn.
Oui, donc Nolwenn Le Dot. Donc moi, j'ai fait le conservatoire régional d'Avignon, voilà, il y a 4 ans maintenant. Et avant le conservatoire en amont, j'ai commencé le théâtre à l'université d'Avignon pendant mes études de lettres modernes et de théâtre. Donc j'ai commencé par du théâtre de tréteau, de la comédie de la farce. Après j'ai fait le conservatoire et en sortant du conservatoire, on a monté donc une compagnie qui s'appelle le collectif Le Bleu d'Armand, qui est également basé en région Rhône-Alpes. Voilà, et puis on a une activité qui commence à bien se mettre en route aussi. Et puis à côté de ça, je travaille avec d'autres compagnies, notamment le TAC Théâtre, sur une trilogie de Les Enfants d'Atrée, Agamemnon, Electre, Oreste. Voilà.
Merci, Nolwenn. Marie-Laure
Moi, je m'appelle Marie-Laure Communal. Et je viens de Normandie, où j'ai fait le conservatoire de Rouen. Et je suis venue à Lyon pour rentrer à l'ENSAT. Je suis sortie il y a plusieurs années déjà. Et je fais partie de plusieurs compagnies, donc comme Nolwenn, la compagnie du TAC Théâtre qui se base en Lorraine. Et puis une compagnie qui est lyonnaise, bourguignonne maintenant, qui s'appelle la compagnie Grimm et Concocte, avec laquelle on a créé un spectacle qui s'appelle Mercedes de Thomas Brasch, que nous allons jouer au mois de février à Vaux-en-Velin.
Effectivement, une actualité brûlante.
Oui, et je vous convie tous à venir nous voir.
Au centre Charlie Chaplin.
Au centre Charlie Chaplin. Voilà, c'est un spectacle très interactif où chacun doit choisir sa place de spectateur. Voilà. Et sinon, après, plein d'autres projets. Voilà, la mort de Danton qui sera mis en scène par Yann Lereux, qui fera partie du festival Balise au mois de juin. Voilà.
Merci Marie-Laure.
Du coup, Pauline Thirault, moi j'ai, après Après à Deux, gare du spectacle, spécialisation danse, alors que je faisais déjà du théâtre et de la danse avant. J'ai fait une formation pluridisciplinaire à TDMI, qui est une école qui était à Perrache et qui malheureusement n'existe plus, qui était une école publique. Et suite à ça, j'ai travaillé de suite avec une compagnie de théâtre forum, la compagnie Temps Fort, qui est basée sur Saint-Priest, une compagnie qui a maintenant 25 ans. Et le théâtre forum, pour ceux qui ne connaissent pas, très brièvement, voilà, ça vient du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, voilà, un metteur en scène brésilien. J'en dis pas plus, sinon ça va être long. Et puis, je me suis formée un peu avec le théâtre de rue. Et j'ai également découvert le clown. Voilà, j'ai quand même travaillé un peu plus en autodidacte. Et j'ai monté ma compagnie il y a 3 ans, de théâtre clownesque, qui s'appelle Zéa et compagnie. Voilà, donc du clown contemporain avec du mime, etc. Il n'y a pas d'actualité pour le moment, si quelqu'un cherche un spectacle.
Mais tu peux peut-être passer une petite annonce.
Exactement. Et puis,
spectacle cherche salle.
Oui. Et puis d'autres projets avec d'autres compagnies. Et le plus récent, ça a été le spectacle Sœur de Lotte Wekmans, qui a été joué l'année dernière au Théâtre des Clochères Célestes. Et une mise en scène de Émilie Joumard de la compagnie Mangez-moi, qui est une compagnie brondillante. Et donc, on le joue à l'espace Albert Camus au mois de février prochain.
Ah, tout de même.
Tout de même, voilà.
Très bien.
Donc, voilà, il n'y a qu'une seule date, ce sera le 13 février, donc il ne faudra pas louper.
Merci, Pauline.
Voilà, et donc moi je suis Brigitte Louis-Grand, je travaille plutôt dans le nord du département puisque je suis basée vers Villefranche-sur-Saône. J'ai une compagnie qui est sur Anse, qui s'appelle Les Enfants d'Arlequin, qui s'appelle comme ça parce qu'au début on avait beaucoup d'ateliers d'enfants. Et puis je travaillais longtemps au CCAB, qui est un centre culturel dans lequel je faisais beaucoup d'ateliers dans le temps scolaire. Voilà. Après, je suis comédienne ou metteur en scène selon les projets et je travaille avec différentes compagnies. Ils ont besoin de moi. Voilà.
Merci beaucoup.
Je voulais ajouter quelques mots.
Ah, je passe peut-être le micro à Amandine, qu'elle se présente aussi.
Elle
a lu.
Oh, pardon.
Je me fais expliquer qu'on n'est pas à la même table.
Alors, voilà, moi, c'est Amandine Vincent. Vous avez pu reconnaître ma voix parce que vous m'entendez régulièrement à Radio Canu. Et je fais plus ou moins partie de la compagnie qui gère cette émission. C'est la compagnie Les Montures du Temps. On a monté plusieurs spectacles ensemble. C'est une compagnie qui défend un théâtre populaire, qui va à la rencontre des autres et qui sort le théâtre de ses murs. Moi, j'ai fait la scène sur Saône pendant 3 ans, à Lyon. Je suis partie à Paris, j'ai travaillé avec le collectif Fragmenté. On a monté 2 spectacles d'Alixef Pitaluga. Et puis voilà, j'ai fait des remplacements sur des compagnies. Enfin, j'ai pas de propre compagnie à moi, mais je travaille avec plein de personnes différentes. Voilà.
Actuellement.
Pas tout de suite. Il va y avoir des lectures à venir plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas de date. Donc, pareil, appel aux metteurs en scène et aux salles de spectacle.
Alors, comédienne cherche metteur en scène. Très bien, c'est noté. Je repasse la parole à Sarah.
Oui.
Très rapidement.
Je voulais dire que le morceau que vous avez entendu juste avant, c'était un morceau de Murkoff qui avait été choisi par Vincent Monnery, donc le créateur son et lumière, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui travaille au Point du Jour actuellement. Voilà, et ben pour les petites actualités, j'ai plusieurs casquettes, je fais un petit peu d'assistante à la mise en scène, je travaille avec une compagnie belge qui joue en ce moment à Bordeaux, au TNB, je crois, non, TNBA.
TNBA.
TNBA, voilà. Et sinon, en tant que comédienne, je vais jouer avec le théâtre Narration en février au Centre Chat et Chaplin.
D'accord, la pièce, voilà. Ce sera
Désarmée, de Sébastien Joannès.
D'accord, merci. Je passe maintenant le micro à Amandine pour la petite chronique de fin d'émission.
Alors, on l'a bien compris, certains vont revenir en février parce qu'il va y avoir des actus. En attendant l'actualité, les actualités de la semaine, il y en a plusieurs. Alors, il y a la compagnie OALD que nous avons déjà reçue ici 2 fois et qui joue ce vendredi, c'est leur dernière date, à 19h30 à la MJC Laennec, salle Janton. Leur pièce, en toute oralité, est une joute discursive et musicale qui interroge l'histoire des relations franco-africaines. Ce spectacle œuvre politiquement pour une prise de conscience des a priori qui nourrissent inopinément nos imaginaires. Si vous souhaitez réserver, n'hésitez pas à voir sur le site internet de la MJC ou à les appeler. Deuxième...
Je l'ai vu, je le conseille.
Voilà, donc on vous invite. Hein. Prenez bien vos agendas, je vais vous donner plusieurs dates. Un autre spectacle qui a lieu au Théâtre des Ateliers. Il reste deux dates, ce soir à 20h30 et samedi à 19h. Il s'agit du Ciel dans la peau, un texte d'Edgar Schias, mis en scène d'Anaïs Cinta et interprété par Odile Lauréa. Alors, Odile signe une performance éblouissante. Elle interprète une multitude de personnages différents. La pièce traite des féminicides au Mexique et interroge la condition des femmes. Le texte se divise en plusieurs parties qui se croisent et se mélangent. Nous sommes tantôt dans le témoignage et tantôt dans le conte et le récit. La mise en scène est réussie. Le spectateur est plongé en plein cœur du Mexique et le décor de Seymour Laval nous transporte complètement dans un quartier populaire mexicain. Le temps s'écoule, nous voyageons suspendus aux lèvres d'Odile. On ressort de là conquis et chargé d'émotions. Donc un spectacle que je vous conseille vivement, il ne reste plus que deux dates.
Pour ceux qui ont écouté l'émission plusieurs fois, on avait reçu Anaïs et Odile qui nous avaient fait une première lecture de d'extrait de cette pièce-là. C'était très intéressant, donc je vous le conseille également. La semaine prochaine, non.
J'ai encore des dates. C'est une actu un peu chargée. Donc là, pour cette semaine, il s'agit d'un spectacle qui s'appelle Comprenne qui pourra. C'est l'âtre. C'est un lieu de formation pour les acteurs qui organise ça. Ce sont avec des élèves en fin de formation. Il s'agit en fait de 7 pièces courtes de Samuel Beckett qui ont été rarement jouées. Donc il y a notamment Catastrophe, Impromptu d'Ohio, Va et vient, Dijon, Quoi où, Cette fois et Solo. C'est donc à l'acte 2 du 25 au 26 novembre à 20h30 et vous pouvez réserver au 04 78 29 12 49. Enfin, un dernier mot, si vous souhaitez aller voir Molière au Théâtre du Point du Jour, c'est la dernière semaine pour aller applaudir les 12 comédiens et le volet Molière se ferme avec le Misanthrope que j'ai vu hier soir et je peux vous dire que j'ai passé un moment très agréable. Voilà, je repasse la parole à Clara et bonne actualité.
Merci, je l'ai vu aussi le Misanthrope et je le conseille aussi vivement. Décidément, on n'a que des bons spectacles à conseiller ici au Théâtre de la Gamelle. Alors, la semaine prochaine, oui. Contrairement à d'habitude, ce sera une rediffusion, vous pourrez entendre, de 13h à 14h, vendredi prochain, une rediffusion de débats publics qui seront menés au NTH8 le lundi 25 novembre. Donc on débute un partenariat avec le NTH8 qui propose, enfin c'est surtout donc les élèves du NTH8, c'est ça ?
Et Vincent Badi avec les élèves du compagnonnage en fait.
Voilà, qui propose donc des débats publics, plusieurs soirées de débats publics autour des spectacles qui sont présentés à Lyon. Donc nous rediffuserons ces débats le vendredi qui suit. Voilà.
Et si ça vous intéresse, ces débats ont lieu donc lundi 25 novembre. Vous pouvez vous renseigner sur le site du NTH8 et c'est gratuit, ouvert à tous. Voilà.
Bonne semaine et à la semaine prochaine.